les 5 minutes de Clio.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois pour les 5 minutes de Clio un académicien, Francis Rapp. Francis Rapp, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais nous avons enregistré ensemble, Un jour dans l'histoire, une émission consacrée à Maximilien d'Autriche. Vous êtes l'auteur de la biographie consacrée donc à cet empereur, une biographie parue chez Talendier. Alors, Francis Rapp, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ?
Eh bien, je dois vous avouer que je ne suis même pas sûr de retrouver l'auteur, mais c'était un grand volume illustré par Job. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, les livres d'enfants, c'était merveilleux, c'était Bonaparte. Et on m'a promis Napoléon, et puis l'oncle qui était parisien n'a jamais tenu sa promesse. Je l'ai vu un jour sur les quais, le deuxième, le prix m'a paru si élevé que je n'ai pas eu le courage de... Et puis j'avais, d'ailleurs dans la même série, chez Nathan, il y avait une collection de personnages historiques, c'était un certain A de Mongon. Et alors, il y avait Henri IV, il y avait François Ier, il y avait Christophe Colomb, enfin, toute une série de personnages historiques, et Napoléon, bien sûr. J'étais éperdument admiratif de Napoléon, ça m'a un peu passé, mais il en reste un peu quelque chose.
Quel est le fait historique dans votre jeunesse ayant participé à l'élaboration de votre identité ou de votre personnalité ?
Oui, incontestablement, les 4 ans. Que j'ai vécu entre juin 40, j'étais absolument décidé que je serais officier français et que je ferais Saint-Cyr. Alors, je me souviens encore de l'effondrement le 22 juin 40 dans les Vosges où nous étions réfugiés de l'armée française. Et je me souviens très exactement qu'à mon petit frère qui avait 7 ans, qui était gravement malade, j'ai dit, tu vois, la France est momentanément vécue. Je pourrais vous répéter tous les mots. Mais n'oublie pas qu'elle est éternelle. Et je lui ai fait une espèce de défilé des personnages historiques de Vercingétorix au maréchal Foch. J'avais pas mis Pétain. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Et alors d'être obligé pendant 4 ans de suivre des cours en allemand, d'accepter l'enseignement que je refusais intérieurement, m'a amené à avoir une double vie. La vie extérieure, pas à la maison, mes parents partageaient mes idées, mais à l'école, ça pouvait tourner très mal, parce que j'avais des camarades qui s'étaient retrouvés dans les camps de rééducation. Et puis après, j'aurais dû partir à la Wehrmacht. Et là, j'ai fait ce pourquoi je suis professeur d'histoire et pas officier. Je ne voulais pas partir à la Wehrmacht. Je n'avais pas de filière pour aller en Suisse, parce qu'aller en France occupée, ça n'avait pas de sens. Et je me suis esquinté la santé. Ce qui fait que quand j'ai voulu m'engager dans l'armée, c'était fini. Alors, si vous voulez, ça, c'est tout à fait décisif.
Quel est le livre d'histoire qui est sur votre table de chevet ?
Eh bien, actuellement, mais je lis les dernières pages, le livre de Janine Garrison sur Catherine de Médicis. Et puis après, je sortirai les livres, c'est pas parce que je suis à l'Académie, que je lirai les livres de Madame Carrère d'Ancos sur la Russie.
Alors, quel est le fait historique, philosophique ou politique vous ayant donné le plus de difficultés dans vos recherches et dans vos réflexions ?
Oh, je pense que c'est la réforme. Incontestablement, la réforme protestante. Puisque en Alsace, n'est-ce pas, le pays est très nettement partagé entre des communes protestantes très fortement ancrées dans leur protestantisme, un catholicisme qui a été aussi très fort. Des difficultés, oui, parce que chaque fois que je croyais avoir trouvé quelque chose, il se posait un autre problème. Je dois vous dire que, au fond, la question historique qui me tracasse le plus, mais pour laquelle je ne peux rien faire parce que je ne suis pas fait source, comment peut-on expliquer que la civilisation égyptienne ou l'Euphrate commence par des monarchies absolues ? comment est-ce qu'on a passé de l'homme des grottes à l'homme qui consent à charrier des pierres pendant des années
pour en faire des pyramides.
Mais ça, c'est quelque chose qui me tracasse, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Alors justement, quel est votre héros dans l'histoire antique ou bien dans les mythologies ?
Oui, eh bien, écoutez, j'y ai beaucoup réfléchi depuis hier soir. Et je crois que finalement, c'est Cicéron. Ça vous paraîtra peut-être curieux. Mais d'abord parce que cet homme était un avocat. Mon père était avocat, mon frère était avocat. Je me reproche parfois de ne pas être devenu avocat. C'est-à-dire celui qui aide, n'est-ce pas ? Et par sa parole. Et puis d'autre part, il a vécu, au fond, l'effondrement d'un régime. Il a passé de la République, etc. Et puis alors, il a écrit de l'amitié et de la vieillesse. Alors, l'amitié d'abord, maintenant c'est la vieillesse.
Quelle est la plus belle image du monde médiéval pour vous, Francis Rapp, qui est médiéviste ?
Oui, écoutez, alors, je m'appelle François ou Francis, n'est-ce pas ? Et je dois dire que pour moi, ce jaillissement du mouvement franciscain a quelque chose d'étonnant. Alors, je ne suis pas dupe des limites de ce mouvement. Et je sais bien que ce jaillissement intuitif s'est figé en institution. Mais qu'un homme, un petit homme, tu le dis peut-être avec une certaine coquetterie, je suis le plus laid, le plus idiot, le plus, etc. Bon, mais qui était en effet quelqu'un sans prestige apparent, qui réussit à créer un courant qui n'est pas tout à fait mort.
Dans l'histoire moderne ou contemporaine, quel est le roi ou le chef d'État pour lequel vous avez une préférence ?
Oh, écoutez, j'en choquerai peut-être, mais c'est le général de Gaulle, je crois. Mais ça tient au fait que pendant 4-5 ans, j'écoutais Londres. Et puis, c'était la garantie, si vous voulez, la France, pour moi, était effectivement une idée. Et d'abord une idée. J'avais en classe, pendant la guerre, quelqu'un qui avait logé de Gaulle pendant la drôle de guerre. Et il se souvenait très bien, il me l'a raconté pendant la guerre, que de Gaulle disait « Nous serons peut-être vaincus, mais la France est immortelle. Il y aura toujours quelqu'un pour la sauver. » Ça, si vous voulez, que ce réal politique, qui n'y allait pas de main morte, était en même temps un idéaliste. Alors, je ne vais pas mettre Maximilien et de Gaulle sur la même échelle.
Quel fut notre meilleur ennemi, Francis Rapp ?
Oh, je pense que c'est avec l'Allemagne. Je pense que c'est avec l'Allemagne, d'abord parce que nous sommes plus parents que nous ne pensons, et ensuite parce que nous avons été obligés, en tout cas nous, Français, nous avons été obligés de bander tous nos muscles. Il a fallu qu'on fasse un gros effort, un effort qui peut-être nous a même un peu ruinés pendant quelque temps. Oui, je crois qu'avec l'Angleterre, le pays était quand même encore... n'était pas aussi cohérent, ne se sentait pas aussi direct. La guerre de 100 ans, c'est loin.
Quel est le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ?
Oh, bah écoutez, là, je dois vous dire que c'est ce que je vois d'ici. Alors, ce n'est pas un monument, c'est l'ensemble.
Les quais, le
quartier
latin.
Je m'arrête parfois 5 minutes sur le pont des Arts. Et puis, je regarde... tout cela, oui. Alors, c'est aussi bien le Louvre que la Sainte-Chapelle, que Notre-Dame.
Quelle est votre 8e merveille du monde ?
Eh bien, écoutez, alors là, je ferai du patriotisme local. J'ai la chance d'habiter à quelques pas d'une cathédrale que je ne me lasse pas de... Alors ça, c'est ma 8e...
C'est votre 8e merveille du monde.
Alors,
votre voyage, quel voyage culturel referiez-vous volontiers ?
Oui, le hasard a voulu que les 8 jours que je passais en Russie, dont 3 jours à Saint-Pétersbourg, aient été amputés de l'essentiel. Alors j'aimerais bien retourner à Saint-Pétersbourg, mais j'aimerais autant, ou presque autant, retourner en Italie, redécouvrir l'Autriche. Ce qui est certain, c'est que je veux faire des voyages culturels dans un pays dont je connais la langue. Et non, je connais le passé.
Vous devez vous exiler. Quels sont les 2 livres que vous emportez ?
Oh, bien écoutez, alors là aussi, ça va être curieux. La Bible, bien sûr, parce que c'est l'histoire sainte. C'est l'histoire d'un peuple et d'un message extraordinaire. Et puis d'autre part, Peggy. Bon, ça ne vous étonnera peut-être pas. Mais l'œuvre poétique de Peggy, j'en sais un certain nombre de tirades par cœur et je les récite de temps en temps.
Alors, vous arrivez dans l'au-delà, Francis Rapp. Quel personnage de notre histoire iriez-vous voir immédiatement Et quelles questions lui poseriez-vous ?
Alors, j'irai voir Jeanne d'Arc. J'irai voir Jeanne d'Arc et je lui dirai, que penses-tu ? Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer ? Qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que tu crois qu'on continuera comme ça ? Est-ce que la France est vraiment éternelle ? Est-ce qu'on pourra ?
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Francis Rapp. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, hein, une biographie de Maximilien d'Autriche. Il y en a bien d'autres d'ouvrages, bien évidemment. Il suffit de consulter la liste sur le site de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, un ouvrage Maximilien d'Autriche paru aux éditions Talendier. Merci et à très bientôt. Restez surtout à l'écoute de Canal Académie.